Moi, je trouve que les murs, là, ils seraient mieux en rose.
Ah ouais, pourquoi ?
Je sais pas, je trouve que ce serait plus radieux, lumineux.
Ah ouais, moi, je dirais que ça aurait plutôt tendance à étouffer, quoi. Genre, enregistrer un podcast dans une boîte rose.
Ouais, ça pourrait être un peu fun, un peu plus... Sort de la philo et on est en couleur. Ouais.
Mais tu vois, le rose, je pense que c'est pas une couleur qui fait assez consensus pour peindre les murs en rose.
Les goûts et les couleurs, ouais. Tu sais, ça se discute pas.
Est-ce que ça se discute vraiment pas ?
C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.
Je pense en effet que le rôle d'un philosophe, c'est de déranger un philosophe qui arrangerait, qui réarrangerait les choses. On ne jouerait pas, je crois, le rôle qu'on doit jouer actuellement, le philosophe et la philosophie. Mais on ne dérange jamais assez, enfin, en tout cas, j'ai eu conscience d'avoir dérangé bien peu et bien moins que je n'aurais voulu.
À vrai dire, au jardin, je n'aime bien travailler, car je suis littéralement absorbé par les formes, les couleurs, la lumière, et je préfère l'ombre du bureau pour écrire.
Après amour, toujours la possibilité de renoncer à tout ce qu'il faut, à tout ce qui est à moi, tu vois, pour quelqu'un d'autre. Je suis responsable de la misère d'autrui, même souvent de la bêtise d'autrui.
Bienvenue sur Radio Piolle.
Vous écoutez Radio Pium et aujourd'hui on va parler de la couleur avec Lou.
Bonjour.
Ici présent. Et moi-même. Donc, ce sera une discussion à deux. On est en effectif réduit aujourd'hui, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, on va quand même bien s'amuser. Du coup, on va peut-être commencer par l'étymologie du mot couleur, qui vient du latin color et qui voulait dire, la plupart du temps, teint du visage. Donc c'est assez intéressant déjà de se dire que la notion de couleur était liée en fait, à l'origine, à celle de peau et à véritablement la notion de teint. Et particulièrement aussi une expression qui était courante à l'époque, je crois à peu près aux alentours du XIe siècle, qui était l'expression « perdre sa color ». Et ça signifiait « perdre son caractère ». Donc là encore, un autre point étymologique assez intéressant qui nous montre que en fait, la notion de couleur est directement liée à la notion de caractère qui, en fait, qui correspond à un trait distinctif qui permet de distinguer une personnalité, un individu. Donc, on peut déjà voir, en fait, que la couleur, c'est potentiellement quelque chose qui donne du relief aux choses, qui les délimite. Et donc, ça va nous guider un peu dans notre réflexion aujourd'hui. On va se demander pourquoi on voit des couleurs, du coup, quel est l'intérêt ? Peut-être que leur utilité, leur intérêt, c'est de délimiter certaines choses. Et puis, qu'est-ce que ça signifie ? Quel impact ça a sur notre conception de l'espace social, de l'espace de notre environnement, etc. Ça sera nos premières interrogations. Et du coup, moi, ce que j'ai vu, c'est que historiquement, la couleur, c'était considéré comme une sensation visuelle. Donc un truc vraiment sensible, très physique, etc. Je sais pas si, en faisant tes recherches, t'as vu ça aussi.
Oui. Ouais. Oui, que la couleur, c'était lié à tout ce qui est perception et comment est-ce que nous le voyons. Mais du coup, ça devient très subjectif à comment... Ça dépend de l'œil de chacun, finalement. Mm-hmm. Mais pourtant, on peut se dire, est-ce que les couleurs, elles existent dans la réalité ou est-ce qu'elles sont que dépendantes de chaque individu ? Mm-hmm.
Ouais, c'est vrai qu'on peut presque en venir à douter de l'existence même des couleurs telles qu'elles sont. Et je pense qu'on s'est tous un peu posé la question une fois dans notre vie de est-ce que je vois la couleur en face de moi de la même manière que la personne à côté de moi ? Est-ce qu'on voit le même rouge ? Ou est-ce qu'en fait, on a juste une conception du monde qui est complètement différente de la personne
Quand à côté on pense aux daltoniens, c'est le cas. Genre, les daltoniens voient pas du tout de la même... manière que des personnes qui voient toutes les couleurs. Mais du coup, est-ce que ça veut dire pour autant que ces couleurs n'existent pas ?
Ouais, c'est ça. En fait, c'est qu'elles ont une autre réalité et qu'en fait, peut-être que les couleurs, elles prennent forme et elles prennent réalité dans le cerveau en fait, de la personne qui les perçoit. Du coup, c'est vraiment particulier déjà de faire de la philo sur la couleur parce que c'est en théorie quelque chose d'assez intérieur Et en philo, nous, on aime plutôt philosopher sur des trucs sur lesquels on peut fonder des connaissances assez stables et objectives.
Mais et là, du coup, ça coule sous les doigts parce qu'on ne peut pas trop le saisir.
Mais justement, est-ce que vraiment on ne peut pas fonder des connaissances plus ou moins objectives dessus? Est-ce que ça ne peut pas quand même être un objet philosophique? Donc ça aussi, ça va être une question qu'on va se poser, je pense. Et ça soulève énormément de questions, notamment par rapport à qu'est-ce que les couleurs, quelles fonctions elles ont dans notre vie de tous les jours, dans quelle mesure elles ont un rôle existentiel.
Est-ce que les couleurs vont déterminer nos émotions? Est-ce qu'elles vont déterminer nos choix? Est-ce qu'elles vont déterminer notre personne même?
Carrément.
En fonction de si je m'habille plus en rose, du coup, je me sens plus fille. Si je m'habille plus en bleu, si on est bien dans les clichés.
On est bien dans les clichés. Et aussi la manière dont on peut se construire en opposition à ces clichés.
Ouais. Vouloir être plus discret, du coup, se mettre tout en noir.
Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi un truc assez intéressant. Il y a certaines personnes qui rejettent, qui peuvent d'une certaine manière rejeter la couleur, ou en tout cas dans leur manière de s'habiller. Parce que là, on parle beaucoup du vêtement, mais c'est vrai que la couleur, c'est aussi plein d'autres choses. Ça nous entoure en permanence. Mais c'est super intéressant aussi de se demander pourquoi certaines personnes font le choix de s'habiller en noir. Et est-ce que c'est un rejet de la couleur? Et si oui, pourquoi? Quelle signification il y a derrière les différentes couleurs? Voilà.
Et même parler de la synesthésie aussi. Je pense qu'on va bien l'aborder parce que c'est tellement intéressant, je trouve.
Ah, c'est un truc qui me passionne. Donc, ça va être un podcast riche en interrogations.
Ouais.
Et la question en fait, qu'on pourrait se poser plus globalement, c'est est-ce que les couleurs nous déterminent notre existence? Et plus précisément, qu'est-ce qu'elles déterminent en général, quoi?
C'est ça. Si elles sont réelles, qu'est-ce qu'elles déterminent?
Exactement.
Et si elles ne sont pas réelles, est-ce que du coup on les crée pour nous déterminer?
J'adore.
Le rouge. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça vous...
J'aime bien en vêtements, je trouve ça assez pimpant, c'est... même quand il fait moche, je trouve ça apporte une petite touche de couleur.
Et du coup, quand il fait pas beau, vous préférez mettre des vêtements colorés ou...
Colorés, justement... oui, ouais. Pour compenser.
Oui, dans un sens, les couleurs, ça paraît anodin, évident.
Ouais, mais c'est genre les couleurs, elles sont dans l'objet.
C'est ça. Mais en fait, on en fait l'apprentissage et on apprend à les nommer aussi, par le langage.
Oui, c'est ça. Mais si on part d'une idée assez banale et première sur la couleur, on pourrait se dire que la couleur, elle est dans l'objet. Je sais pas, la table est rose parce que c'est comme ça, elle est... rose, et même si on éteint la lumière, si on est dans le noir, s'il n'y a plus de lumière, la table reste rose, elle ne va pas perdre sa qualité d'être rose.
Ouais.
Mais pourtant, c'est pas ce que dit notre très cher Locke, qui va faire la différence entre les qualités premières et les qualités secondes.
Ouais.
Et du coup, les qualités premières, c'est des qualités qui sont absolues à l'objet. Donc il dit que c'est la figure, le mouvement, l'étendue et la solidité. Ça changera pas, ça c'est objectif, genre c'est toujours là dans l'objet. Et il dit que la couleur c'est pas le cas, c'est une qualité seconde parce que ça dépend de la perception. Ça dépend pas du tout de l'objet lui-même.
Donc en gros, ça serait en fait la couleur serait un effet subjectif, quelque chose de produit par
la
le
perception,
sujet, par la perception.
C'est ça parce que du coup c'est dépendant de notre perception.
OK.
Genre si on change l'éclairage, on va voir une couleur différemment. Parce que oui, il y a le truc de on éteint la lumière et on ne voit plus la couleur. Mais il y a aussi, on va juste changer un petit peu l'éclairage. Et pourtant, la table va sortir d'un rose différent. Donc au final, il y a quand même... Oui, elle reste rose, mais elle n'est pas du même rose. C'est un rose plus sombre, plus lumineux. Donc du coup, ça serait aussi dépendant de la perception et pas intrinsèque à l'objet de manière absolue.
Ouais. De la même manière que quand on est sous l'ombre d'un arbre, par exemple... On va voir l'herbe sur laquelle on est assise presque...
Plus foncée.
Presque, grise. Ouais, et pourtant, en fait, on sait qu'elle est verte, mais sur le moment, c'est une notion qui nous échappe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se forcer à percevoir du vert s'il n'y en a pas sous nos yeux, quoi. Et si la lumière ne produit pas ce vert-là.
C'est ça.
Quoi.
Même si on peut l'imaginer,
c'est
pas pour autant qu'il est constatable sous nos yeux.
Et du coup, cette conception de Locke, elle va de pair avec la conception de Newton, qui a théorisé la manière dont globalement fonctionne la perception des couleurs. Et donc, si j'ai bien compris, sachant que mes notions en sciences sont assez limitées. Hein, ouais.
Si nous avons bien compris, parce que...
Nous avons bien compris, parce qu'ici, on fait de la philo, attention. Mais bon, important quand même de faire un petit point scientifique sur la couleur, quoi. Ça serait donc la lumière blanche qui nous permet de percevoir la couleur. Et donc, ça serait...
Faisant passer un faisceau de lumière blanche à travers un prisme, il a observé qu'elle se décomposait en spectre de couleurs, du rouge au violet. Et du coup, il a conclu que la lumière blanche est en réalité composée de différentes lumières colorées, chacune correspondant à une longueur d'onde précise. Et du coup, ce phénomène montre que les rayons lumineux se distinguent non seulement par leur couleur, mais aussi par leur réfrangibilité, c'est-à-dire leur capacité à être divisée différemment en traversant un prisme.
Et donc, il me semble que donc, cette lumière-là, elle va rebondir contre les objets et se réfléchir dans notre œil.
C'est ça.
Et en fait, je crois que ça va dépendre de la matière aussi sur laquelle elles ont...
C'est pas la couleur de l'objet. C'est pas une propriété intrinsèque à l'objet, mais que ça dépend vraiment de la manière dont il interagit avec la lumière.
Ouais.
Donc du coup, c'est pas comme Locke, parce que Locke il dit que c'est en fonction de nous comment on le perçoit, alors que Newton il dit que c'est vraiment en fonction de comment l'objet est éclairé, donc tout dépend de la lumière du coup finalement.
Ok, donc finalement, alors que Locke pensait que c'était vraiment...
La perception
et le sujet en fait qui agit à proprement parler pour percevoir... La couleur, en fait, il y a un truc qui nous échappe et il y a un truc qui s'impose à nous aussi.
C'est ça. Mais en fait, c'est un peu, du coup, encore une fois, un entre-deux. Genre, Locke, il dit c'est hyper... Enfin, il serait plutôt du côté du subjectif en disant ça dépend vraiment de la perception de l'individu. Mm-hmm. Et Newton, il dit que oui, ça dépend de comment on le voit, mais ça dépend aussi de la lumière. Donc, c'est pas absolu dans l'objet, mais c'est quand même extérieur à nous, quand même.
C'est quand même un processus
manière.
Qui nous échappe. C'est-à-dire que c'est pas dans l'objet, c'est pas non plus directement dans notre œil. C'est un phénomène physique qui ensuite a lieu dans notre œil, mais d'abord à l'extérieur de nous. Quoi.
Bah, il y a l'exemple de. J'ai mis un petit exemple. J'arrête pas de parler de rose, mais bon, c'est ma couleur préférée. Donc, du coup, ça va être que des exemples roses, d'accord ? Par exemple, du coup, une jupe rose nous apparaît rose parce qu'elle absorbe toutes les autres longueurs d'onde du spectre électromagnétique. Donc, le bleu, le vert, le rouge et tout. Waouh !
C'est super magique.
Mais c'est fou. Sauf celle correspondant au rose qu'elle réfléchit vers nos yeux. Donc, la couleur est donc liée à la sélectivité de la réflexion et de l'absorption de la lumière par les surfaces et non une qualité propre et stable de l'objet lui-même. Donc, comme on a dit, c'est entre subjectif et objectif, finalement, c'est toujours pas une question en suspens.
Et du coup, voilà, j'aimerais quand même compléter cette conception-là par celle de Hume, dans Traité de la nature humaine, qui insiste vraiment sur le fait que la couleur, en fait, elle est perçue et elle n'est pas pensée. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on disait, c'est un phénomène qui est d'abord à l'extérieur de nous et qui ensuite revient, enfin, va se produire en nous. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas entièrement... un contrôle. On ne peut pas exercer un contrôle en fait, sur la perception de la couleur. Donc, on ne peut pas penser la couleur. On ne peut pas convoquer une couleur. Elle s'impose à nous et donc on la perçoit. Et donc, il n'y a pas de processus d'intellectualisation. Et c'est en ça que la couleur, en fait, elle va se placer du côté de la sensation, du côté du ressenti physiologique, de l'expérience physiologique. Et voilà, c'est quelque chose de très physique, finalement. Quand on a posé la question tout à l'heure, qu'est-ce que les couleurs déterminent, je pense qu'on pourrait se dire déjà que les couleurs déterminent notre expérience esthétique. La manière dont... dans un premier temps, on pourrait croire en fait, qu'elles ne déterminent rien parce qu'elles sont simplement données. Mm. En fait, non, elles s'imposent à nous, donc elles ont un effet sur nous aussi. Et donc, c'est super intéressant de se pencher un peu plus là-dessus, je pense.
C'était toute la question de même le peintre. Genre, le peintre, il a forcément une sensibilité... aux couleurs qui va au-delà de je vais prendre du bleu. Ouais. Genre, la couleur, elle n'est pas dans le tableau, elle est d'abord dans l'œil du peintre et dans l'esthétique qu'il ressent. Et après, il va créer le tableau de couleurs.
Ouais, c'est complètement lié aussi aux émotions, en fait. Donc, quand on est peintre, je suppose qu'on veut transmettre aussi, et c'est un truc assez intuitif, où en fait, ça, je pense, dépasse un peu le langage aussi. Donc, dans un sens, en fait. Bien sûr, les couleurs, elles s'imposent à nous. En même temps, on a besoin du langage pour les nommer, parce que on saurait pas que du rouge, c'est du rouge si on n'avait pas les mots Pour le dire. Donc on fait quand même un certain apprentissage, je pense, des couleurs. Sinon, voilà, ça serait juste une réalité qui se présente à nous comme ça, de manière pas réfléchie, on va dire. Mais dans tous les cas, le langage aussi, dans un autre sens,
mais même,
dépasse.
Il y a une logique des couleurs, du coup. Parce que ce soit le peintre, quand il peint avec logique. Mm-hmm. Mais que ce soit nous, comme tu dis, il y a un apprentissage des couleurs. Donc ça veut dire qu'on réfléchit les couleurs, l'arc-en-ciel... Par exemple, on sait quelle couleur... Même, il y a une logique des couleurs parce qu'il y a des couleurs qui ne vont pas ensemble. Il y a des couleurs qu'on ne peut pas associer, qu'on ne peut pas faire un mélange entre le rouge et le vert. Mmh. C'est impossible.
Christophe Lepeau, je suis professeur de couleurs à la Cambre.
Ouais.
Depuis, je sais pas, 12-15 ans maintenant.
Au début d'année, tu avais mentionné notamment, tu disais, ta phrase choc, la couleur, ça n'existe pas.
Oui.
Mais après, du coup, là, tu reviens quand même en disant le vert, ça existe. Parce que, alors que bon, toutes les couleurs, c'est des longueurs d'onde, à la fin, c'est une réception entre la longueur d'onde et un organe interne.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Au début de l'année, j'insiste pour dire que la couleur n'existe pas, dans le sens où je veux diriger l'attention des étudiants sur cet aspect purement mental, visuel de la couleur. Mais après, bien sûr, on en revient aussi aux aspects techniques. Et là, en un sens, elle existe un peu plus, quoi. Elle est matérialisée dans la lumière ou dans les encres. Oui, mais c'est pas pour ça que fondamentalement elle existe, quoi. Elle existe, comme tu dis, dans la rencontre entre la lumière et l'organe récepteur ou et le cerveau derrière encore plus. Ouais.
Et pourquoi ça serait quoi le rapport vraiment entre la lumière et la couleur?
Bon, la lumière, c'est le stimulus, c'est ce qui provoque la couleur. Ouais, c'est ce que tu vas traduire en couleur. Les différences de lumière, tu vas les traduire en différences de couleur.
Et du coup, tu parles beaucoup de Wittgenstein, et du coup, par exemple, c'est quoi qui t'a intéressé particulièrement? Pourquoi lui particulièrement parmi d'autres en théorie de la couleur?
Oui, oui, mais c'est pas du tout la philosophie de Wittgenstein que je dirais même pas que j'ai compris ou je vois le but extrême ultime de Wittgenstein. C'est juste que comme il décortique le vocabulaire de la couleur, il va chercher des aspects justement de cette couleur perceptive, de comment on la comprend, de comment on en parle. Ah, ça passe par les mots chez Wittgenstein. Mais et donc il va chercher ce que j'appelle cette logique de la couleur qu'on a en nous, sans savoir très bien d'où elle vient. Elle vient sans doute de notre conformation physiologique, de l'organe récepteur, du cerveau. Mais elle apparaît dans le vocabulaire. Et donc pour mettre à jour cette logique des couleurs, creuser le vocabulaire comme il le fait, c'est pratique, je trouve.
La couleur en soi, elle s'impose un peu à nous. On pourrait se demander, je pense, si c'est pas une sorte de force sensible, un peu. Puisqu'on choisit pas vraiment de la percevoir et qu'elle s'impose à nous d'une certaine manière. Elle provoque de l'émotion malgré elle, malgré nous aussi. Et donc, comme tu disais, le peintre, il va quand même choisir certaines couleurs pour transmettre certaines émotions. Donc, il y a peut-être la volonté de reprendre le contrôle aussi sur les couleurs. En se disant je vais mettre tel bleu avec tel vert et ça va provoquer tel effet. Mais je pense qu'il y a toujours un truc qui nous dépasse dans la couleur et qui excède le langage. On disait tout à l'heure qu'on a fait l'apprentissage des couleurs, mais en fait il n'y a pas assez de mots pour caractériser le nombre de nuances de couleurs qu'il y a, parce que j'ai lu qu'il y avait genre à peu près 1 million de nuances de couleurs différentes. On n'a très clairement pas 1 million de mots pour qualifier toutes les couleurs à notre disposition. Et du coup, je pense qu'il y a aussi un truc, je pense que c'est le propre de la couleur, et c'est pour ça que ça provoque autant d'émotions, c'est que c'est quelque chose, on est forcé en fait de perdre le contrôle, de lâcher prise face à la couleur.
Mais même, ça me fait penser à, j'avais pensé à oui, imagine, je deviens aveugle, je vois plus les couleurs du coup, je vois plus du tout. Mais j'ai déjà vu avant, tu vois, je deviens aveugle. Du coup, ça veut dire que on peut me décrire quelque chose en me décrivant sa forme, en écrivant, je sais pas, on peut me décrire aussi sa couleur, parce que j'aurais quand même déjà vu les couleurs, donc j'ai un souvenir des couleurs, j'ai un imaginaire des couleurs, je rêve en couleurs, enfin, tu vois ce que je veux dire, j'ai toujours une perception de la couleur ou un souvenir de la couleur, tu vois, une idée de la couleur. Et, mais du coup, une personne aveugle, on peut pas lui décrire quelque chose avec des couleurs, enfin, aveugle... Ouais. De naissance. On ne peut pas lui décrire quelque chose avec des couleurs parce que du coup, ça lui paraîtrait hyper... Enfin, je veux dire, moi, si on me dit, oui, bah, la table, elle est rouge, mais rouge foncé, je vais être en mode, bah, ok, j'arrive à me faire une idée de ce que c'est, parce que j'ai déjà vu, même si maintenant je vois plus. Mais la personne qui est aveugle de naissance, comment on lui décrit le rouge foncé? Tu vois ce que je veux dire? C'est comment on décrit une couleur? Elle à part dire que c'est rouge, on peut pas dire bah c'est le mélange du orange avec de... Tu vois ce que je veux dire? On peut pas définir une couleur en mode la décrire plus que...
Peut-être qu'on en revient aux émotions, en fait. Je pense que le meilleur moyen de décrire une couleur, peut-être, à quelqu'un qui peut pas... le voir, c'est dire, par exemple, cette couleur, elle est chaude. Elle fait, tu vois, par exemple, je sais pas, moi, si je devais décrire le rouge, je dirais, ou peut-être plutôt l'orange, c'est une couleur chaude qui me fait penser à... Enfin, qui correspond à plein de phénomènes naturels qui évoquent la chaleur, le réconfort. Donc ça serait, je sais pas, genre un coucher de soleil. Ce genre de choses, tu vois. Et même si la personne peut pas les percevoir, peut-être qu'elle peut les ressentir d'une autre manière. Après, évidemment qu'on ne pourra jamais se mettre à la place d'une personne aveugle, donc on ne peut pas savoir vraiment comment c'est de pas percevoir la couleur. Mais je sais aussi, et j'avais lu un truc là-dessus, que quand on ne voit pas les choses, genre par exemple quand on rêve, en fait, quand on rêve, on ne voit pas. Enfin, on pense avoir des images mentales, mais en fait, c'est plus des émotions. C'est-à-dire que c'est notre corps, notre cerveau qui se rappelle d'émotions qu'on a vécues, de situations qu'on a vécues. Donc en fait, on ne voit pas vraiment les couleurs mentalement. C'est ultra intéressant. Et en fait, on se rappelle plus du sentiment que certaines couleurs peuvent nous faire ressentir, des émotions qu'on peut ressentir.
Que la couleur elle-même.
Que la couleur elle-même, en fait. Donc c'est pour ça, je trouve qu'on en revient encore à ce truc ultra... cette dimension ultra sensible et émotive. Moi, je pense par exemple à certaines œuvres, les œuvres de Jackson Pollock, qui sont juste des tableaux remplis d'éclaboussures de peinture de couleurs différentes. Là, on est vraiment sur un rapport à la couleur très particulier, où en fait la couleur en elle-même devient un objet à part entière, alors que d'habitude, tu vois, c'est ce qu'on disait au début, on pense que la couleur appartient à un objet et rajoute une caractéristique à l'objet. En fait, la couleur, des fois, elle peut devenir elle-même un objet et une forme de matière. Et il y a plein de peintres, je crois, qui s'en servent. Jackson Pollock, je pense aussi que les impressionnistes, en fait, il y a une prédominance de la couleur sur la forme qui est super intéressante, où en fait, ils vont dessiner des choses et des objets par touche de couleur, en fait. Donc c'est d'abord la couleur, en fait, qui va...
Plutôt que la forme.
C'est ça. Et en fait, c'est super intéressant parce que ça va nous descendre un peu dans notre manière de concevoir les choses, où on a plutôt l'habitude de penser d'abord la forme, ensuite la couleur. Et en fait... se rendre compte que la couleur en elle-même a un pouvoir, c'est ultra intéressant aussi, je trouve. C'est du point de vue esthétique, du point de vue
philosophique. Même du point de vue émotion.
Ouais.
C'est vrai que les couleurs, comme pendant le micro-totor qu'on a fait, tu vois, les gens, ils disaient souvent le jaune, c'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose... Ouais. Donc on associe aussi les couleurs à des émotions. Je veux dire, au-delà de la synesthésie, du coup, qu'on va aborder. Ouais. Genre, de base, je sais pas, s'il fait beau, je vais plus avoir envie de mettre de la couleur que s'il fait moins beau, s'il fait plus gris, ou même si tu fais un enterrement, genre c'est dans les codes aussi, il y a des codes de couleurs en fonction d'événements, en fonction des mariages, tout ça, donc c'est...
Oui, genre mettre une robe blanche le jour d'un mariage alors que c'est pas toi la mariée...
Ça va pas ou quoi?
C'est terrible.
Ça va pas ou quoi?
Bon, après, il y a des gens qui s'en fichent et qui aiment bien déconstruire ce genre de trucs, mais c'est vrai qu'il y a un vrai truc de... Les couleurs ont
de
un
la
sens,
symbole.
Un symbole.
Ouais, la symbolique des couleurs.
C'est très intéressant.
Mais c'est ce qu'il dit Goethe,
ouais.
Notre très cher Goethe. J'avais lu un truc sur Goethe qui disait qu'il avait fait un cercle des couleurs. C'est ce qu'il dit. Il dit que le jaune, c'est chaud, affectif et joyeux. Ouais. Et que le bleu, c'est froid, passif et mélancolique.
Waouh.
Il associe aussi des qualités psychologiques et morales aux couleurs. Genre le rouge, c'est la beauté et la dignité. Et le vert, c'est le repos et l'équilibre. Ouais, voilà, c'est pour ça. Et le violet, c'est le sérieux et la grandeur. Et justement, le violet, il y a vraiment une histoire du violet.
Ouais.
Avec dans la monarchie, enfin les rois. Mm-hmm. Le violet, c'était une couleur hyper dure. Une teinte hyper dure à avoir. Et du coup, c'était très, très, très cher et précieux. Et du coup, c'était que les personnes nobles qui pouvaient en avoir, donc les personnes riches, donc la monarchie. Mmh. Et du coup, c'est devenu une couleur noble.
Genre, c'est dingue.
Et ça a encore resté maintenant où ça reste une couleur aussi associée à ça. Donc Goethe avait raison.
Mais tu vois, c'est marrant parce que j'ai vu un peu la même chose pour le bleu. le bleu, de base, c'était une couleur qui était plutôt associée au diable au Moyen-Âge.
Ah ouais?
Ouais, je te jure, c'est super surprenant. Avant le Moyen-Âge, je crois. Et après, ça a évolué petit à petit et c'est devenu la couleur de la pureté, bah, vachement. Enfin, maintenant, par exemple, quand tu vois les représentations de Marie, par exemple, la Vierge Marie, elle est souvent habillée en bleu, etc. Donc, c'est devenu une représentation de pureté, de sainteté et aussi de noblesse. Et c'était aussi une des couleurs de la monarchie à une certaine période. Donc c'est marrant, parce que du coup, donc ça, je crois que c'est Michel Pastoureau qui en parle, un historien de la couleur, justement, qui parle de ces évolutions-là. Donc en fait, c'est intéressant de voir que oui, il y a des symboliques qu'on accorde aux couleurs, mais qu'elles évoluent dans le temps, et qu'en fait, il y a quand même une dimension un peu subjective, un peu... pas subjective, mais si, un peu... Enfin, je sais pas si on pourrait dire absurde ou relative, en tout cas à chaque période.
Ouais, l'époque fait évoluer la couleur en c'est fonction.
Et en même temps, bah, nous, à notre instant T, je pense que ça a vraiment un sens ultra précis. Et enfin, tu vois ce que je veux dire, ça détermine notre expérience de, oui. De la vie, d'avoir ces significations-là. Genre, typiquement, le bleu, quand tu dis que Goethe, il associe ça à la mélancolie, etc. Pour moi, c'est un truc qui est ultra vrai. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui perçoivent le bleu comme une couleur assez mélancolique. Et même, il y a une expression en anglais qui dit « to feel blue ». Et « to feel blue », ça veut dire tu te sens mal, tu te sens genre morose, triste, etc. Et c'est marrant de voir comme ça détermine quand même notre expérience sociale.
Mais la couleur, ça détermine tellement de trucs. Quand on y pense, j'étais en train de penser au red flag.
Ah ouais,
tu vois ou pas? Genre le fait de dire... Enfin maintenant c'est un truc un peu courant et tout qu'on dit comme ça. Mais en vrai, on va dire, ouais, il a plein de red flags. Et c'est un peu dans le langage commun de... Ouais, bah ça veut dire que c'est un con, quoi.
Bah donc, ouais.
Et du coup, le rouge associé
le rouge,
à la dangerosité,
souvent...
au négatif, c'est une personne pas bien. Et le green flag, c'est une personne plutôt cool. Et du coup, bah, on le voit même aussi... d'un point de vue marketing,
ouais.
Genre quand tu vas faire tes courses avec les Nutri-Score là, qui vont du vert jusqu'au rouge. Donc il y a vraiment toujours un truc de... Il reste quand même un code couleur qui est très...
Moi je me demande si justement le vert et le rouge, c'est pas un peu des constantes. Je serais curieuse de voir comment le vert et le rouge étaient perçus il y a genre 1000 ans. Mais je me demande s'il n'y a pas un truc un peu primitif aussi dans le rouge qui évoque le danger. Par exemple, genre, tu sais, il y a certaines baies. Voilà, il y a certaines baies dans la nature. Enfin, tu sais qu'il ne faut pas les manger, elles sont rouges et il ne faut pas les toucher parce qu'elles sont empoisonnées. Ce genre de truc. Enfin, tu sais, des petites baies sur les arbres. Là, que... Je ne sais pas si ça t'est arrivé quand tu es petite de vouloir les manger. Mes parents me disaient tout le temps dedans.
C'est pour les oiseaux. si tu en manges, tu meurs.
Ouais, voilà. Et du coup, dans mon cerveau, je pense qu'il y avait ce truc de le rouge, c'est le danger. Les panneaux stop, ils sont rouges. Les feux rouges, c'est attention, il faut s'arrêter. Et pareil, alors que le vert, c'est beaucoup plus proche de... Ça nous évoque la nature, ça nous
évoque... C'est de l'écologie.
Le calme.
La santé.
C'est
je trouve que c'est assez commun. Tu vois, c'est un peu un langage commun, le fait que l'eau... Je trouve que l'exemple du rouge et du vert, c'est vraiment partout en plus.
Ça nous permet de nous repérer aussi.
C'est ça.
Donc j'imagine aussi, dans un monde qui est autant construit autour de la couleur, parce qu'en fait, on s'en sert comme des points de repère, et même genre... Enfin, je sais pas, quand j'étais en primaire, je me rappelais que moi, j'avais pas des notes sur mes bulletins, j'avais des gommettes genre vertes ou rouges ou oranges en fonction de mes bons points, de mes mauvais points, etc. Et je me dis, mais par exemple, quelqu'un qui est daltonien, en fait, c'est ultra déstabilisant. Quand c'est des personnes qui vont peut-être moins bien distinguer certaines couleurs. Et quand on se base sur une perception dominante aussi de la couleur, ça crée forcément des inégalités, peut-être aussi, je sais pas.
Oui.
Et des difficultés pour certaines personnes dans la société.
Je pense qu'en étant daltonien, t'es forcément dans une situation beaucoup plus inconfortable vis-à-vis de ton expérience aux autres et au monde finalement. Et maintenant, petite pause musicale, vous allez écouter True Blue de Madonna.
Yeah.
Vous avez écouté True Blue de Madonna.
Je voulais revenir un peu aussi à la manière dont la couleur, ça peut, ça dit beaucoup plus que juste ce que c'est fondamentalement, et ça peut avoir une certaine tangibilité aussi, même si c'est quelque chose qui dépend de la lumière, ça peut avoir une forme de matière, et c'est super intéressant. Typiquement, Deleuze, dans La logique de la sensation, quand il fait référence au travail de Francis Bacon, qui est un peintre assez connu, il explique que pour lui, à travers les œuvres de Francis Bacon, il se rend compte que la couleur, elle a un intérêt plastique, et il parle même du fait qu'elle ferait hurler la chair. Donc il y a un truc qui fait que les personnages de Francis Bacon, parce qu'ils sont peints de certaines couleurs, ça va les transformer même leur aspect physique, leur physiologie, la manière dont on peut imaginer, percevoir leur physiologie, la texture de leur peau, ce genre de choses. Donc pour lui, ça rompt avec les formes, ça déforme les corps, et donc ça détermine vraiment notre manière de sentir, d'éprouver le monde. Ça peut complètement modifier notre expérience du monde aussi. Et je sais qu'il y a pas mal aussi... hier, je regardais une vidéo YouTube d'une meuf qui s'appelle Fashion Kish, que j'aime beaucoup, qui est une fille qui fait des vidéos YouTube qui mêle mode et philosophie. Je vous conseille vraiment sa chaîne YouTube, elle est géniale. Et elle parlait notamment c'était une vidéo sur le female gaze dans la mode, et elle parlait notamment de certaines... comment on appelle ça ? Couturière ? Non, pas couturière. Styliste.
Styliste.
Notamment une styliste qui avait... j'ai oublié son nom, désolée. C'était la styliste de Comme des garçons, dans les années 90. Qui, elle, jouait beaucoup avec à la fois la matière et la couleur. Et la couleur avait un rôle ultra important dans la manière dont ça allait déformer le corps de ces mannequins. Et son but, c'était vraiment de créer un peu une sorte de déséquilibre dans les silhouettes, de s'extraire de la silhouette classique de la femme dans la mode. Et donc, il y avait une vraie volonté de... Enfin, la couleur avait un vrai rôle dans la manière dont ça pouvait jouer avec la silhouette de la personne en face, et de la personne qui porte la tenue. Enfin, bref. Et du coup, je trouve que ça peut nous amener aussi à la notion de synesthésie d'une certaine manière. Ça nous montre que les couleurs, en fait, elles sont reliées à bien plus de choses que juste la vision, en fait. Ça fait appel à d'autres sens, ça stimule d'autres sens.
Et d'autres conceptions aussi qui sont propres. Ça. Du coup, les personnes synesthésiques, qui associent par exemple un nombre à une couleur, une émotion à une couleur, une personne à une couleur. Enfin, je trouve que on peut le faire pour s'amuser, tu vois. Genre, c'est ce qu'on avait fait quand c'était appelé, de dire je trouve que t'es plutôt vert, sapin et tout ça. Mais eux, ils le font vraiment par réflexe. Genre, c'est vraiment une logique de compréhension limite de ce qui les entoure, d'associer les choses aux couleurs. Et il y a pas mal de poèmes de Rimbaud d'ailleurs où il fait des
associations.
Avec les voyelles, avec. Du coup, c'est très beau parce que c'est comme si tu voyais son poème en couleur, tu vois.
Ah, c'est génial.
Et du coup, ça fait une expérience totalement différente entre ce que tu lis, ce que tu comprends, ce que tu ressens, ce que tu vois. Enfin, il y a un mélange de tout plein de choses entre le mot, sa signification, sa perception en couleur. Et c'est assez incroyable, l'expérience.
C'est génial.
L'expérience Rimbaud.
Vivre Rimbaud. mais du coup, en fait, c'est super intéressant parce que ça souligne quelque chose aussi qui est que, oui, il y a des consensus sur certaines couleurs et des significations associées à certaines couleurs, mais il y a, je pense, une part irréductible de subjectivité dans la couleur. Et je pense que ce qui est génial, c'est quand il y a quelqu'un de synesthésique comme ça qui va partager en fait sa vision du monde, la couleur, elle apporte une autre dimension où on a vraiment l'impression de rentrer, je pense, fondamentalement dans la perception de la personne. Ça peut nous permettre de nous sentir plus proches. Et moi, ça me fait penser à... Bon, il faut savoir que je suis une assez grande fan de la chanteuse Billie Eilish.
Je comprends.
Et voilà, et j'ai regardé pas mal l'interview d'elle. Et je sais qu'elle est synesthésique, enfin qu'elle a le cerveau synesthésique, parce qu'elle en parle assez souvent. Et son frère aussi a le cerveau synesthésique. Et en fait, apparemment, c'est super drôle parce qu'ils en viennent à débattre de le O c'est jaune, la lettre A elle est bleue, et ils sont pas d'accord. Parce qu'en fait, même s'il y a des conceptions communes, le cerveau synesthésique, c'est aussi une manière. Enfin, les gens qui ont le cerveau synesthésique, ils ont quand même des choses qui leur sont propres et qui sont irrationnelles, en fait.
Oui.
Et c'est génial parce que ça veut
mais
dire...
Mais eux, ça leur fait sens, mais c'est pas forcément... C'est ça.
Et du coup, je sais pas, je trouve ça trop intéressant de voir aussi en quoi ça peut, être, ça peut nous permettre d'exprimer une certaine singularité aussi, d'associer certaines couleurs à certaines choses. Enfin, ça donne du relief aux choses, ça donne du caractère, ça donne... Ouais, ça délimite les choses d'une manière assez personnelle aussi, de donner certaines couleurs à certaines choses. Enfin, voilà.
Bah, c'est ça, c'est quand on reste dans... Si on revient à ce qu'on disait au début, quand on reste dans une vision très... réglementaire de comment définir la couleur, on est vraiment très dans, oui, bah, la vision de Newton, scientifique, de la lumière et tout ça, ou sinon une vision vraiment attachée à, c'est subjectif, 100% subjectif en mode la perception, alors que c'est tellement plus compliqué que ça, il y a un mélange au-delà de juste l'œil ou de juste la lumière, il y a juste bah, l'émotion, la ouais. personne, le vécu avec les couleurs, le sentiment, il y a tout ça. Même on va être plus sensible à certains tableaux de peintres
ouais.
en fonction de ce que ces couleurs nous évoquent, mm-hmm. tu vois. Et quand tu prenais l'exemple des impressionnistes, je trouve que c'est totalement le cas avec Monet, tu vois, à l'Orangerie, ouais. je sais pas si t'es déjà allé à ouais. tu sais, la salle qui
les
fait
nymphéas.
Les nymphéas mm-hmm. en 8, là. Je trouve que c'est ça, t'en as forcément un que tu préfères que l'autre, alors ouais. qu'en soi, c'est globalement tous... Bah, c'est vraiment la même prise, mmh. la même chose, mais c'est juste des nuances de couleurs différentes et tu vas être plus sensible à ouais. certaines qu'à d'autres. Donc ça reste assez subjectif quand même au niveau des émotions. Et...
D'ailleurs, ce qui est super intéressant avec cette salle de designer là, dans l'Orangerie, c'est Monet qui l'a pensé comme ça. Il a 8. Vraiment pensé en 8 avec, sur le toit des fenêtres qui permettent de faire passer la lumière d'une certaine manière sur les œuvres. Donc on voit là encore une fois le rôle de la lumière aussi dans l'expérience esthétique et je trouve ça super intéressant.
Il y a vraiment toute une réflexion jusqu'au bout, c'est incroyable.
C'est incroyable. Donc ça veut dire qu'il a quand même aussi essayé d'orienter l'expérience esthétique du spectateur.
Donc en fait, il n'y a pas de réponse finalement hyper...
Non,
défi.
C'est vrai.
Bah, après, c'est de la philo. Hein,
donc... ouais, c'est le principe, c'est qu'on aime bien discuter de choses, décortiquer la réalité, c'est notre truc.
Ou okay. en fonction de l'humeur. Si je suis okay. un petit peu déprimée, ça va être très noir.
Okay.
Sinon, ouais. Si je suis emballée par ma journée, ouais, en général, plutôt colorée.
En fait, même si on pourrait dire que même si la couleur elle est pas réelle au sens scientifique du terme, c'est-à-dire que c'est se produit dans notre œil et tout, elle est bien réelle au niveau perceptif et donc elle influence notre manière de voir, de vivre le monde. Et donc ça me refait penser à ce que je disais tout à l'heure dans le sens où il y a des codes couleurs très précis qui peuvent du coup parfois conduire à certaines discriminations parce qu'en fait du coup on va établir certains codes couleurs comme majoritaires alors qu'en fait il y a quand même une dimension assez subjective. Et donc, en fait, ça serait intéressant là, de se pencher dans ce dernier mouvement sur la manière peut-être dont les couleurs peuvent structurer l'ordre du visible, en fait, et peuvent structurer non seulement notre rapport esthétique au monde, mais aussi structurer l'ordre social, en fait, et politique dans lequel on vit. Juste se demander peut-être si, en quoi... finalement, accorder des significations fixes aux couleurs, parfois, ça peut conduire à l'exclusion, à la hiérarchisation de certains individus, entre les individus et à la production de normes. Mmh. Voilà. Je sais pas
si. Si, ouais. J'avais même formulé une sorte de question un peu. J'avais mis être déterminé par la couleur, virgule, ou être une personne racisée. Parce ouais. que, en soi, c'est le cas. Et on peut du coup rattacher cette idée de racisme à juste l'idée du langage et des normes. Donc ouais. c'est ce que disait, vu que bon, il est mort depuis, Wittgenstein qui disait que... c'est lui qui fait un usage grammatical des couleurs. Mmh. Du coup, il dit que c'est pas physique, c'est pas lié à la lumière, c'est pas lié à la perception. Enfin, il dit que c'est... Si, en soi, quand on y pense d'un point de vue scientifique, mais lui, il pense vraiment le côté... qu'est-ce que ça fait dans la société, tu vois ouais. Et il dit que c'est vraiment des règles.
Des jeux de langage.
Ouais, c'est ça, des jeux de langage.
J'adore Wittgenstein.
Ouais, j'adore quand il dit ça. Parce que du coup, bon, ramener tout au langage,
ouais.
on souffle. Mais en même temps, c'est un peu vrai. Parce que du coup, c'est comme on disait, stop, arrête-toi, c'est rouge.
Ouais.
Tu vois.
Et en fait, il y a un vrai truc dans Wittgenstein, pour lui, c'est le langage est tout le temps en construction à travers nos interactions. Et donc, c'est pour ça qu'il parle de jeu de langage, c'est qu'en fait, pour lui, le langage, c'est un jeu. Et on apprend à parler et à penser en même temps dès l'enfance en interagissant avec les autres. Mais il y a quand même des règles. Et ces règles-là, elles évoluent au cours du temps, mais elles peuvent aussi être... Enfin, il y a plein de règles grammaticales qui sont assez fixes et qui sont difficiles à bouger. Et donc, le problème avec ces règles, c'est qu'elles enferment. Mmh. Elles enferment les gens et l'existence, la réalité, dans certaines significations et dans certains cadres de pensée. Et donc, bah, en effet, je pense que c'est ça qui peut conduire... Enfin, c'est ça qui a conduit notamment au racisme structurel.
Oui, oui, c'est ça.
À la manière dont on a structuré, dont on a hiérarchisé certaines couleurs de peau. Et bah, c'est François Fanon qui en parle aussi dans « Peau noire et masque blanc ». Et donc, lui, il explique qu'être perçu comme noir dans une société où le blanc domine et où le blanc est considéré comme supérieur ou en tout cas bénéficie d'une position supérieure, et bah, c'est en fait être assigné à une place, à une image et à un ensemble de projections qui sont aliénantes où en fait, automatiquement, parce qu'on va être perçu comme noir ou racisé, plus largement, on va être relégué à une position sociale, à certains stéréotypes, à... Ouais, en fait, à un mode d'existence qui est purement fondé sur un aspect esthétique.
Puis même, ce qui est horrible avec toute cette idée du coup de du racisme et de la couleur, c'est que la personne qui est racisée, elle va avoir une perception aussi différente des couleurs globalement de peau. Genre, elle va être beaucoup plus consciente de sa couleur de peau et de ce que ça implique dans la société qu'une personne du coup blanche qui va pas forcément se poser la question. Et en même temps, il va se poser, enfin, je sais pas, du coup je peux pas me mettre à sa place, donc voilà, mais dans le podcast que j'avais écouté qui en parlait, c'était Francaise de France Culture, je sais pas si tu l'as vu, entendu plutôt.
Je crois pas.
Bah, je le recommande, il est plutôt cool, enfin je recommande à tout le monde du coup.
Comment il s'appelle
Je sais plus.
Allez, écoutez ce podcast, je ne sais pas comment ça s'appelle.
Allez-y, mais... c'est parti, let's go. France Culture sur la couleur de peau.
Ok.
Et c'était la dame, l'invitée. J'ai pas son nom aussi, mais vraiment mes sources. Waouh, je suis que forte. Elle disait que c'est ça, c'est qu'à la fois tu subis une invisibilisation par la société du fait de ta couleur de peau. Et en même temps, une sur... représentation mais dangereuse, enfin en mode on associe,
ça te rend visible.
C'est ça, ça te rend visible et en même temps invisible, tu vois. Et du coup, pour se réapproprier une couleur de peau quand tu nais dans un monde qui la déteste entre guillemets, enfin qui la
dévalorise,
c'est ça, qui la dévalorise depuis l'histoire,
depuis très longtemps, depuis la colonisation et bien avant,
c'est ça, bah, que ce soit l'esclavage, après la ségrégation, il y a toujours eu une idée de séparation des couleurs, de vraiment une...
En fait, je pense que c'est peut-être aussi lié, bah, tout simplement... de toute façon, je ne peux pas expliquer l'origine du racisme parce que c'est quelque chose d'absurde en soi. C'est probablement lié aussi au refus, justement, de cette différence et de cette altérité où, en fait, bah, oui, il y a différentes couleurs, une palette de couleurs bien... Bah, énorme, en fait, en termes de couleur de peau et la volonté de... d'essayer de comprendre, en fait, je pense qu'il y a eu la volonté d'essayer de comprendre peut-être ces différences-là en les hiérarchisant, alors que c'est complètement absurde.
Bah même, ça en dit long sur notre rapport aux autres en lien avec...
Et sur le besoin
de contrôler.
De contrôle, de dominer aussi.
De dominer,
Et Bellux aussi en parle beaucoup. Bellux parle aussi dans son livre, notamment Ain't I a Woman, et dans un autre livre aussi qu'elle a écrit pour les enfants. Sur la couleur de peau, je ne me rappelle plus du nom, je vais le retrouver. Un livre qui s'appelle Skin Again. Elle parle aussi particulièrement de la manière dont les femmes noires sont objectivées à cause de leur couleur de peau. Donc là, c'est, on va dire, l'intersection entre le sexisme et le racisme. Et elle explique aussi la manière dont les stéréotypes de beauté occidentaux sont basés en fait sur une beauté dite blanche et sur des traits physiques, des caractéristiques physiques qui sont propres aux femmes blanches, en fait. Et elle explique du coup la manière dont les femmes noires, elles vont subir de la discrimination parce qu'elles ne sont pas en mesure de correspondre à ces stéréotypes-là. Et donc aussi, elles vont elles-mêmes intérioriser finalement cette hiérarchie. Et ça, je trouve ça super intéressant aussi de voir comment une perception, qui est une perception dominante, écrasante, qui est la perception de la hiérarchisation des couleurs et la perception raciste en fait des individus peut être intériorisée par les personnes racisées elles-mêmes. Et je trouve que Bellux, je vous conseille vraiment d'aller lire Ain't I a Woman, c'est ultra ultra fort. Et voilà, enfin, elle montre pour elle, en fait, malgré tout ça, cette intériorisation, il y a aussi la capacité pour les personnes racisées de s'autodéfinir, de reprendre le pouvoir, en fait, sur leur couleur de peau, de les revaloriser, de créer leur propre canon esthétique, de réinvestir, en fait, cet espace comme un espace de liberté, parce que vu qu'on n'a pas pensé les stéréotypes de beauté occidentaux sur le mode des peaux, enfin, des couleurs de peau racisées, mais en fait, du coup, on n'a pas de représentation, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de représentation dominante de ce que c'est que la beauté noire ou même la beauté asiatique, etc. Enfin, asiatique racisée. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi.
Je vois ce que tu veux dire.
je veux pas faire trop de maladresse et parler à la place des gens non plus. Mais du coup, c'est ultra intéressant la manière dont tu expliques que justement, parce que ça n'a pas été défini, ça peut être défini de plein de manières différentes.
Oui.
Et ça peut être une source de liberté. Mmh. Et donc, voir que la couleur aussi n'est jamais figée. Elle peut être contestée, elle peut être réévaluée.
C'est ça. Bah, on pourrait se dire, oui, du coup, on est déterminé par notre couleur de peau qui va déterminer notre intériorité. Alors ouais. qu'au final, on peut encore se le... Enfin, j'espère qu'on peut encore se le réapproprier. Ouais. Et... Après, on le voit avec les mouvements tels que Black Lives Matter ouais. ou... tout ça, où il y a vraiment une volonté de...
Et d'ailleurs, je conseille aussi le podcast Kif Taras, qui est vraiment super intéressant, qui parle aussi des questions de racisme et de genre, et qui mêle très très bien ces questions-là, qui permet de comprendre un peu mieux aussi le point de vue des personnes racisées. Eh bien, figurez-vous qu'on est non seulement un podcast, mais on fait aussi partie d'une association qu'on a peut-être déjà mentionné plusieurs fois et qui s'appelle Opium Philosophie. Et aujourd'hui, on reçoit un membre de notre asso qui s'appelle Raphaël. Bienvenue, Raphaël.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Tu es parti de quel pôle, Raphaël ?
Atelier. Enfin, okay. Beaucoup atelier maintenant. Et avant, sinon, toujours les synesthésies.
Ok. Et bah, du coup, on t'a invité dans le podcast parce que apparemment, tu as un projet qui arrive bientôt et qui est en lien avec la couleur. Est-ce que tu pourrais nous en parler ?
Exactement, c'est beaucoup sur la couleur, parce qu'en gros, on fait un atelier le 7 juin à 16h30 dans l'amphithéâtre Richelieu. Et le projet, c'est de reproduire les tableaux et de faire une immersion dans le tableau. Donc on va utiliser des jeux de lumière, on va utiliser de la musique, on va utiliser des acteurs, de la narration, il y aura un narrateur aussi, pour créer une ambiance qui est propre à l'artiste du tableau en question, et aussi de la peinture elle-même, les couleurs, les mouvements, les personnages, comment ils bougent, etc. Et du coup, c'est beaucoup le public qui crée l'atelier, en fait. Trois quarts de l'atelier est créé par le public parce que c'est lui-même qui décide de quel geste va faire l'acteur, quelle lumière et quelle couleur on va utiliser et quelle musique va être jouée. Et du coup, nous, on réagit par rapport à ça. On décide de répondre avec des faits culturels et des fonds artistiques pour justement apprendre tout en ayant quelque chose d'interactif, etc. Et voilà, et c'est déjà pas mal. Et il y a un quart que je dirais pas qui participe encore plus à cette immersion, mais comme ça, les gens viendront pour voir
ça. Ok, il y a une petite part de mystère, on adore. Génial. Et du coup, ça a lieu quel jour ? Tu l'as peut-être déjà dit, mais est-ce que tu peux répéter ?
Ça a lieu un samedi, donc les gens sont normalement là. C'est le 7 juin à 16h30.
Génial.
Dans l'amphithéâtre Richelieu.
Vous serez tous là. Hein,
yes.
Tous.
Et ça sera sur la musique de Matisse. Le tableau, la musique de Matisse.
Ok. Wow. Bah écoutez, préparez-vous. Yes. Venez armer de votre gros cerveau et de votre créativité, quoi.
Ouais, il y a juste besoin d'être, de dire ce qu'on a envie de faire, quoi. C'est hyper libre et...
Venez comme vous êtes.
Et voilà.
Exactement.
Et le tableau est bleu, vert et orange. C'est un bon mélange.
C'est un mélange intéressant. Et attention, c'est le comeback de Maëlle qui vient juste pour cette dernière partie.
Juste pour un jeu.
Juste pour s'amuser avec nous.
Moi, je me faisais chier en régie.
Voilà. Elle a réalisé le podcast et maintenant, elle a rajouté sa petite touche, quoi.
Ouais. Opium non. ou absence ?
Opium !
Philosophie.
Oh, ok. Ouais, c'est mieux que je dise pas.
Cacadois ou jaune pisse ?
Jaune pisse.
Ah, ouais, mais cacadois, il y a vraiment des nuances de ouf, tu vois.
Ouais, cacadois, c'est plus varié.
Il y a vraiment des nuances de ouf. Tu préfères contrôler un espace clos ou ne pas contrôler un espace libre.
Ah, ok, c'est bon.
Je préfère contrôler un espace clos comme un dictateur.
Bah, moi, ne pas contrôler,
pas contrôler un espace libre.
Je rigole. Hein. C'était so problematic.
Elle essaye de retourner en Colombie, là.
Locke ou Newton?
Locke.
Newton.
Locke. Locke. La philo.
Moi, j'aime pas la science. Matisse ou Chagall?
Matisse.
Chagall. Chagall fois mille.
Matisse. En vrai.
T'es grave à l'OS, Marianne, parce que je te rappelle que le 7 juin, c'est sur Matisse, quand même.
Oui, d'accord. Okay.
Matisse. Il y a vraiment plusieurs périodes. C'est incroyable.
Monet ou Berthe Morisot?
Berthe Morisot.
Manet.
Mais vous êtes pas assez.
Mais Manet, c'est un révolutionnaire.
Monet, j'ai dit Monet.
Ah, Monet. Monet, quand même, aussi. Hein. C'est la peinture moderne.
Ouais. Toi, t'es trop sûr de qui t'aimais. Ça va trop vite.
Tac, tac, tac. On réagit.
Vous venez d'écouter Radio Pium, diffusé un dimanche sur quatre sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Au micro, c'était Marianne Varem, Lou Fontana et moi-même, Maëlle Bouvrin. Si vous avez des questions ou des propositions de thèmes, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse opium.radiopium@gmail.com.